With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tu te dis, est-ce que je suis légitime sur Instagram à me montrer, à faire des portraits, parce que bah, j'ai des rides, moi-même je déteste vieillir, j'aime pas mon image. Pendant un moment, je me suis dit, mais est-ce que je suis pas trop vieille en fait? Et en réalité, je pense que non, parce que non.
Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à American Vintage. Bonne écoute.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes. Parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est pas vrai tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sap, chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une fille qui se décrit ainsi. Je suis parisienne, amoureuse, surkiffeuse, attachante et peut-être même un peu chiante. Delphine Desneiges a été une des premières à se lancer dans la blogosphère. En 2005, elle a créé Didi Paris. 14 ans plus tard, Delphine est devenue une référence en matière de look, de voyage, de beauté et de conseils shopping. Bonjour Delphine.
Bonjour Valérie.
Alors, j'ai une question que j'improvise là. Ça fait 15 000 fois que je voulais te demander pourquoi Didi ?
Et pourquoi pas ? Non, blague à part, donc je m'appelle Delphine et c'est ma famille qui me surnommait Didi. Donc en fait, tu sais, il y a 14 ans, tu réfléchissais pas en termes de stratégie, de marque, etc. J'avais ouvert un canal blog, il fallait un titre. Et voilà, je me suis dit, bah, quel titre je peux prendre ? Bah, Didi, c'est mon surnom, je vais l'utiliser en tant que, voilà, que titre de blog, tout simplement.
Ça te fait quoi si je te qualifie de vieille blogueuse, tu m'en veux ?
Pas du tout, au contraire. Je trouve ça plutôt sympa. Je trouve ça chouette, en fait, d'être sur la toile depuis 14 ans et d'avoir vu un peu toute l'évolution de la blogosphère. Je suis un peu mamie Didi, en vrai.
Alors, on se replonge en 2005.
Ouais.
Pourquoi avoir créé un blog ? Ton blog.
Ouais, en fait, j'étais étudiante à ce moment-là et je chroniquais sur un site qui a depuis été racheté par Le Parisien. Et c'était des chroniques, alors cinéma, culture, etc. Et puis très vite, j'ai eu envie d'écrire sur d'autres choses. Et c'était un média qui me le permettait pas, parce qu'il n'y avait pas de rubrique voilà, qui était ouverte à la mode, à la beauté, à d'autres titres un peu plus lifestyle, on va dire. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi je créerais pas moi-même un support qui me permettrait de m'exprimer sur ces sujets-là. Et il faut dire qu'en plus, je me mariais à cette époque-là. Donc j'ai commencé à faire plein de recherches, comme toutes les jeunes mariées, sur les listes de mariage, les tenues de mariage, les petits cadeaux que tu peux offrir aux invités, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai passé tellement de temps sur ce sujet, j'ai envie de partager un peu le fruit de mes recherches. Et donc, bah, le blog rassemblait un peu tout ça. C'était une manière d'exprimer librement sur mes envies du moment.
Oui, je crois que tu as appuyé sur un mot, librement. Ouais. Il y avait une vraie liberté d'expression, c'était très frais à l'époque.
C'était inédit, en fait, de pouvoir s'exprimer de la manière qu'on le souhaitait, sur le sujet qu'on souhaitait. C'était complètement fou, en fait.
Et que penses-tu de la blogosphère en 2019 ?
C'est hyper intéressant, en vrai. Les blogs ont été un peu boudés face à l'avènement d'Instagram ces 2 dernières années, 3 dernières années même, on pourrait dire. Et donc, bah, y a plein de gens qui les ont un peu pris en désamour, parce que c'est vrai que quand on est lecteur, il y en a plein, en fait. À un moment, c'est hyper chronophage d'arriver à lire ces petits articles de blog, des blogs qu'on aime bien, même moi, en tant que lectrice. Ça me prenait un temps, mais infini, si tu veux. Donc, c'est vrai que face à l'offre pléthorique, il y a eu un peu un phénomène inverse où tout le monde a un peu déserté les blogs. Et puis, finalement, aujourd'hui, on se rend compte que bah, c'est toujours agréable, en fait, de pouvoir lire un texte un peu plus développé que les quelques signes qu'on peut mettre sur Instagram.
Tu sens qu'il y a moins de commentaires ?
Sur les blogs, clairement.
Ouais, ah, c'est ouais. Kenza qui me l'avait dit.
Oui, oui, clairement. Ben, moi, sur un article, en moyenne, avant, quand je te dis avant, je pense que c'était vers 2010.
Jadis, il fut un temps.
Il fut un temps que...
Oui, hein, mamie.
Mamie Didi, represent.
Et mamie Valoche.
Je sais pas, avant je devais avoir une cinquantaine de commentaires en moyenne. Maintenant, si j'en ai 15, je suis contente en fait, parce que les gens prennent moins le temps. Ça veut pas forcément dire qu'ils lisent moins ou qu'ils sont moins là. Au contraire, moi je trouve que là, on revient vraiment dans une lecture de blog un peu plus importante. En revanche, tu vois, ils prennent moins le temps de s'exprimer parce que en tant que lectrice, encore une fois, moi je comprends complètement ce phénomène. Tu peux pas passer ton temps à liker, commenter, etc. Puis t'as pas toujours quelque chose de pertinent à apporter, tu vois, au débat. Donc voilà, c'est pas non plus nécessaire.
Bah, les gens lisent un peu moins si on est dans la société de l'image.
Oui, je pense que c'est pour ça qu'Instagram cartonne comme ça. C'est que effectivement, découvrir un univers par le truchement d'une image, c'est plus rapide que de le découvrir avec un texte de 2500 signes, quoi qu'on en dise. Donc effectivement, on lit moins et on choisit peut-être mieux ses lectures.
Et est-ce qu'Instagram va remplacer les blogs, selon toi ?
Non, pas du tout. Je pense que c'est complémentaire. Et c'est ça qui est intéressant, si tu veux. Je pense que l'image n'empiète jamais complètement sur les mots et vice-versa.
Alors, t'as aussi une grosse communauté Instagram. Tu te sens plus blogueuse ou influenceuse ?
C'est une vraie question.
Et journaliste, parce que t'es journaliste de formation.
Ouais. Mais en fait, ça dépend auprès de qui je me présente. Tu vois, honnêtement, influenceuse, c'est un terme que je trouve un peu péjoratif. Ah bon ? Tu vois, je trouve que quand tu dis influenceuse, tout de suite, tu penses à la dinde décérébrée qui gagne des millions en parlant chiffon. Bon, ça veut tout dire et rien dire, et du coup, comme ça veut rien dire, les gens comprennent pas et ont un peu tendance, tu vois, à dénigrer ce terme-là. Et puis, influencer, ça veut dire quoi, tu vois, t'influences, on en parle souvent avec des collègues de la blogosphère. On est tous influenceurs, en fait, de ma
oui,
mère.
Sans le vouloir,
exactement, ma mère qui n'a pas Instagram, mais qui, avec ses soirées entre copines, va dire, bah tiens, j'ai testé tel truc, c'est sympa, bah c'est une influenceuse, en fait. Donc, on est tous influenceurs. Et influenceur à un moment ou à un autre.
Et influençable.
Et influençable, absolument, ouais. Donc, influenceuse, j'avoue que je ne l'utilise pas souvent pour décrire mon activité professionnelle. Blogueuse, bah, c'est un peu restrictif parce que finalement, au quotidien, j'écris, je prends des photos, je suis commerciale, je suis comptable, je suis secrétaire, voilà.
Tu es freelance.
Voilà,
c'est la vie de la freelance.
C'est ça. Donc, blogueuse rassemble pas franchement tout le périmètre des activités. Et journaliste, bah aujourd'hui, alors déjà, ne dis jamais que je suis journaliste devant des journalistes de presse, par exemple, parce que alors là, si tu leur dis qu'une blogueuse est journaliste, je vais me faire jeter des cailloux et voilà. Mais ouais, c'est pareil, journaliste, ça n'englobe pas vraiment toutes les activités que
Il y a des journalistes qui sont aussi influenceuses. Hein.
Tout à fait.
Ça, on oublie de le dire.
Ça, on oublie de le dire. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant.
Alors, tu parles aussi pas mal de La Parisienne. Tu as même écrit un livre sur le sujet chez Marabout qui s'appelait « 5 saisons à Paris ».
Oui, absolument.
Alors, pourquoi avoir axé sur Paris ?
C'est une vraie bonne question, parce que je suis parisienne de cœur en réalité et pas de naissance. Ma famille est parisienne, mais mon père a trouvé son premier job à côté de Toulouse. Donc, je suis albigeoise, coming out régionale. mais j'ai pas d'autres racines que celle d'y être née, donc voilà. Et Paris.
Tu as grandi à Paris ?
Oui, exactement. Alors à Saint-Germain-en-Laye, à Saint-Denis, parce que j'étais en pension.
En banlieue.
En banlieue. Mais après, effectivement, j'ai été rapidement à Paris. Et pourquoi Paris ? Parce que Paris me fascine autant qu'elle m'agace, en fait. C'est une ville qui est riche d'une énergie qu'on retrouve, à mon sens, nulle part ailleurs. Et c'est pas forcément une qualité, hein. Ça peut être aussi un défaut. Paris, c'est une ville ultra agressive. En tout cas, c'est un terrain de jeu formidable à plus d'un titre. Et ça m'intéressait de me pencher un peu plus dans ce quotidien, en fait, qui est le mien, mais aussi celui de millions d'autres, quoi.
Est-ce que le mythe de la Parisienne existe encore ?
Je pense pas. La Parisienne, pour moi, c'est une femme, tu vois, qui aime s'amuser, qui est multiple, en fait. La Parisienne, c'est effectivement la fille qui a grandi à Bondy, mais qui vient travailler à Paris. C'est celle qui est de passage, c'est celle qui aime juste Paris et qui a envie de s'y retrouver un week-end de temps en temps. La Parisienne, elle n'est pas une, mais elle est multiple, en réalité.
Et puis, elle ne porte pas forcément du rouge à lèvres rouge, un trench.
Une marinière, un jean slim et des ballerines.
Tu as oublié la baguette de pain sous le bras.
Ouch, et le béret.
J'ai lu pas mal d'interviews de toi. Tu préfères parler de mode, de beauté ou de voyage ?
Honnêtement, j'aime vraiment ces trois sujets et c'est pour ça que j'en exclus aucun sur le blog ou sur les réseaux sociaux. Je pense que comme La Parisienne est multiple, moi je suis multiple aussi. et je me résume pas à un seul domaine d'activité. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, les gens, tu sais, aiment bien te ranger dans une case. Alors, ils te disent, mais c'est quoi ton blog? C'est un blog mode? C'est un blog beauté? C'est un blog voyage? Et tu dis, bah, c'est tout ça, en fait. Moi, j'aime bien.
Je suis multifonction, multicasquette.
Ouais, c'est ça. J'aime bien l'éclectisme, en fait, que j'ai choisi comme vie. Et j'aime bien en rendre compte au travers des sujets que j'aborde.
Alors, quel est ton style au quotidien? Parce que toi, tu n'as pas de vélo, tu as un scooter.
Ouais, je suis en scooter. Donc déjà, ça impacte fortement mon style. Comme tu as pu le voir ce matin, j'ai débarqué en plein mois de mai, sous la pluie et dans le froid, avec une merveilleuse doudoune que j'aimerais bien remiser définitivement dans ma housse compactor, mais ça n'est pas possible. Donc pour l'instant, voilà. Ouais, blague à part... Moi, je trouve que c'est amusant de jouer un peu avec des tenues en fonction de ton emploi du temps, de ta personnalité, de ton humeur du moment. Donc, mon style, il est impacté et reflété par tout ça, si tu veux. Donc, en ce moment, j'aime bien être élégante, mais tu vois, sans prise de tête. Voilà, typiquement, aujourd'hui, j'ai mis des petits talons en slim.
Comment tu t'es... Voilà, ce que j'allais dire. Ouais. Comment tu as anticipé ma question.
Ouais.
Comment t'es-tu habillée pour venir chiffonner avec moi?
Alors, pour venir chiffonner avec toi, Valérie, j'ai mis un jean slim qui est mon jean de bonasse, que j'adore.
Le jean de bonasse, ouais. Qu'est-ce le jean de bonasse?
Le jean de bonasse, c'est ton jean préféré qui te met en valeur et dans lequel tu te sens hyper bien surtout.
Donc, c'est le jean de ta vie?
Ouais, bien sûr. Celui-là, je l'ai depuis 4 ans.
Waouh, je crois que tu es la première invitée à me dire qu'elle a trouvé le jean de sa vie.
Ah ouais, mais tu sais que mon drame, en plus, c'est qu'ils ne le font plus, évidemment.
C'est quelle marque?
C'est Acné, en fait. Tu vois, moi, ça fait un petit moment que j'essaye de mieux considérer mes achats et de faire attention. Bon, on va pouvoir développer si t'en as envie, mais pour la jouer courte, je préfère acheter moins mais mieux. Et ce jean-là, bah, il est hors de prix. Mais je savais qu'en me l'offrant, en fait, je le garderais assez longtemps. Et je suis hyper contente parce que tu vois, il est increvable. Il me suit partout. Festival, soirée, journée, boulot. Voilà, c'est vraiment
c'est un peu ton jean doudou.
Ouais, c'est mon jean doudou.
Et tu te sens bonasse.
Et je me sens grave bonasse dedans. Et parfois, t'en as besoin, tu vois, quand t'as un peu trop mangé, que t'as un peu de bide. Donc voilà. Je ris parce que tes chats grattent sur la porte.
Bonjour Gauthier, tu ne vas pas être content. Gauthier étant mon ingénieur du son.
Donc j'ai mis mon jean de bonasse, j'ai mis un t-shirt que j'aime bien, je crois que c'est Enfant Terrible que j'ai mis, ouais, voilà, qui est un petit peu rock, tu vois, avec une veste de blazer à carreaux que je trouve bien et confortable, et voilà. Et j'aurais bien aimé mettre, tu vois, juste mes petites slippers noires, mais il faisait trop froid, donc j'ai dû mettre des bottines avec des chaussettes à l'intérieur, parce que j'ai froid, voilà. Et je me suis habillée comme ça aussi, parce que du coup j'enchaîne sur une soirée, j'aurais pas le temps de repasser à la maison, et du coup, tu vois, c'est un peu la tenue passe-partout. Je mettrai un rouge à lèvres rouge ce soir.
Je sais que c'est ton ADN.
Ouais.
Comment étais-tu petite fille?
En termes de style ou en termes de personnalité?
Style. Oh, les deux, ça doit être lié. À mon avis, te connaissant, ça doit être lié.
Ouais, alors j'étais quand même très... j'avais pas trop mon mot à dire sur mon OOTD, c'est-à-dire que maman adorait...
Outfit of the day, traduction.
Maman adorait les robes à smoke. Donc comme j'étais l'aînée, figure-toi que c'est quand même moi qui ai bien encaissé toutes les robes à smoke jusqu'en CM2. Quand même, voilà, grosse blague, et jusqu'en CM2, j'ai été en robe à smoke sur les photos de classe. Évidemment, alors en CP ou un peu plus tôt, tu vois, t'as beaucoup, beaucoup de robes à smoke, et puis à mesure que les années passent, donc en CM2, j'étais toute seule sur la photo de classe.
Avec tes Star Trek aux pieds.
Non, même pas. Non, c'était horrible. On allait chez Thiel, tu sais, les chaussures anglaises avec la double bride.
Oui.
Voilà, j'adore. Enfin, c'était magnifique. Donc, j'ai pas eu trop mon mot à dire sur jusqu'au collège. Et puis alors
et
après.
Et tu rêvais de jeans, en fait, à l'époque?
Je sais pas si je rêvais de jeans parce que au primaire, j'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de petits copains en jeans, mais plus, ouais, des robes un peu plus cool, tu vois, un peu plus. Dans la smoke, c'était ringard, quoi. Puis c'était tradi. Quel enfer, franchement, j'ai milité pendant
merci
des
maman.
Années, quoi. Merci, maman.
Et au collège?
Au collège, j'étais en uniforme.
Ah oui?
Ouais, et ça m'a bien traumatisée. J'ai porté un uniforme tout le collège.
Ah ouais,
toi, tu
nous as fait la totale, là.
Ah
en
ouais,
fait.
Non, mais franchement, non, c'était un
confessions
peu raide.
Confessions intimes de
ouais,
Didi.
Ouais, c'était un peu raide. Tu sais, en plus, c'était. J'ai été à la maison d'éducation de la Légion d'honneur.
Ah oui. École
très stricte. École, ben, c'est pas.
pas si stricte que ça. En réalité, ce qui induit une certaine rigueur, c'est surtout que c'est une pension et une collectivité. Donc, à partir du moment où tu as une collectivité, tu as forcément des règles pour la régir. Mais après, en termes d'éducation, c'était pas si strict que ça. Tu vois, moi, j'ai pris ma première cuite là-bas. Enfin, bref,
je ne vais pas détailler. Je ne veux pas avoir de soucis avec cette école.
Voilà. Donc, tout va bien. Mais en gros, c'était pas si strict que ça. En revanche, très clairement, l'uniforme, c'était l'enfer. Parce que c'est une école, en fait, rapidement, qui a été créée pour les orphelines de guerre des batailles napoléoniennes. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de militaires. Il y a aussi des pupilles de la nation. Enfin, ça brasse pas mal d'horizons
et d'univers différents. Je croyais qu'il fallait avoir un ancêtre qui avait eu la Légion d'honneur pour y entrer.
Alors, c'est Légion d'honneur, palmes académiques, médaille du mérite, croix de guerre, je crois. Donc, tu dois être fille ou petite fille d'un médaillé, de ces quatre médailles que je viens d'évoquer, et ou être pupille de la nation. Voilà. Mais donc, dans les faits, tu as quand même beaucoup de militaires. Moi, mes parents ne sont pas du tout militaires. C'est mon grand-père qui avait eu la Légion d'honneur à titre de guerre. Voilà, mais ça quand même, culturellement, tu as quand même des horizons différents. Ce n'est pas uniquement militaire, tradi, catho à fond. Ce n'est pas du tout de catho, d'ailleurs. C'est une école laïque. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc c'est intéressant, voilà. Et alors, l'uniforme, malheureusement, il a peu évolué depuis la création de l'école sous Napoléon
Ier.
Jusqu'en
terminale.
Et ouais. Enfin, je suis partie en première, mais bon, si j'avais fait ma terminale là-bas, j'aurais porté cette magnifique robe chasuble bleu marine avec ce qui était. Donc, t'avais l'uniforme d'été, l'uniforme d'hiver. Donc, je vais t'épargner le détail, mais en gros, t'avais collerette, chemisier et alors une ceinture qui matérialisait ton niveau. Voilà. Ah. Donc, vert, violet, orange, etc.
Et est-ce que t'essayais de te démarquer?
Ah bah la grande blague,
par
tu sais.
Par la coiffure.
Alors, c'était les chaussures.
Les chaussures. Ouais. Ah, on vous fournissait pas les chaussures.
Non. Donc, au collège, on fournissait les petites culottes, figure-toi. Ouais, petit bateau, qu'on appelait évidemment un grand paquebot, parce qu'on avait beaucoup d'humour.
Le grand paquebot. Mais
on était très drôles. Non, ils fournissaient pas les chaussures, donc clairement, tu te démarquais avec ça, tu te démarquais avec effectivement ta coiffure. Après, t'avais peu de liberté, hein, parce que je t'explique, déjà, maquillage, c'était interdit, vernis à ongles, on n'en parle pas. Voilà, et puis tu te démarquais avec tes cahiers, tes trousses, tes stylos, voilà quoi.
Alors toi, tu te démarquais avec quel type de chaussures?
Moi, j'aimais bien, pas du tout rock, hein, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je me rattrape, mais mon gros fantasme, c'était les chaussures à nœuds. J'adorais ça. Et ma mère m'avait, mes parents même, je pense, surtout ma mère, m'avait fait miroiter des chaussures à nœuds si je passais en troisième. Bon, évidemment, j'ai redoublé, donc j'ai jamais eu mes chaussures à nœuds. Mais ça, c'était mon grand kiff. Non, moi, ouais, malheureusement, j'avais des mocassins. Mes parents étaient un peu. Ils étaient, j'allais dire, chiants, les pauvres. J'arrête pas de les charger depuis le début de l'émission.
J'espère qu'ils ne vont pas écouter Chiffon.
Les pauvres. Mais non, bah, tu sais, ils voulaient pas qu'on se démarque trop. Je pense pour eux, ils ont raison. Je pense que l'uniforme, ça te permet aussi.
Ouais,
exactement. Sauf que quand tu le vis, évidemment, tu l'analyses pas du tout comme ça.
Ouais, mais après, quand t'as commencé à sortir, tu ne sortais pas avec ton uniforme.
Non, je te rassure. Ni avec mes mocassins. Non, bien sûr. Bah, moi, j'adorais, tu sais, alors c'était l'époque des Cimarrones. Donc j'adorais les jeans de couleur. J'en avais un bordeaux, un vert sapin, en peau de pêche et tout. Ah, j'adorais ça. Et j'avais un Barbour, un truc improbable. Des Clarks. Je sais pas si tu te souviens des Clarks avec les semelles à crêpes.
J'ai eu le même uniforme.
Bah voilà. C'était hyper marrant, quoi. Des grandes chemises un peu d'homme qu'on rentrait dans le pantalon et tout. Voilà.
Ouais, t'avais les un look docks. Assez cool déjà.
Ouais, j'ai eu des docks que j'adorais. J'avais des noires évidemment montantes et ma sœur avait eu des vertes hyper jolies que je lui piquais tout le temps.
Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look?
D'être moi-même, de pas suivre des tendances qui me mettraient pas en valeur ou qui me coûteraient cher pour pas grand-chose.
Alors, ta maman qui était très stricte, désolée madame.
Mais pas tant que ça en plus, c'est ça qui est marrant. Mais...
Est-ce qu'elle t'a donné des conseils aussi?
Maman, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la mode. En fait, c'est une femme très élégante et qui a d'ailleurs un vrai style plutôt moderne, contemporain. Et elle sait très bien se mettre en valeur. C'est une femme qui est très belle. C'est une très belle femme.
Rattrape-toi.
Ouais, grave. Non, mais vraiment. Mais en revanche, je crois que la mode l'intéresse pas plus que ça. Elle a la mode comme fonction plus que comme passion. Et du coup, je l'en remercie, tu vois, parce que ça me permet de pas être tributaire. Enfin, ça m'arrive, hein, attention, hein, je suis ni dans le jugement, ni dans l'auréole de gloire sur un piédestal. Hein, ça m'arrive de succomber à des tendances, mais je pense qu'elle est... Elle m'a inculqué le fait que la mode est avant tout utile et qu'elle devait me mettre en valeur et être pratique avant toute autre fonction.
Oui, c'est un besoin primaire.
Ouais, exactement.
Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais?
ou plus jamais peut-être une robe chasuble. je porterai jamais, faut jamais dire jamais, parce que tu vois, t'as plein de certitudes et puis parfois tu te laisses avoir, pourquoi pas. Et non, moi je suis pas très fan des, tu vois, des trucs en latex, très court, très moulant. Je trouve que c'est jamais très élégant, quoi. Mmh. Après, un petit legging en cuir, ça peut être un peu plus sympa, voilà.
Ça, tu serais prête à le porter?
Je l'ai porté même, pas mal.
Et quels sont tes vêtements de base, tes basiques?
De plus en plus, en fait, j'essaye de me composer une armoire de basiques parce que donc ça corrobore un peu ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie aujourd'hui et ma vision de la mode. Je pense qu'on a été très longtemps coupé des circuits de production et de la réalité de la production de la mode. Et moi, c'est quelque chose qui m'interpelle en fait beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'on a une responsabilité en tant que consommateur d'interpeller un peu nos marques préférées sur leurs conditions de production. Et ça, je parle en termes environnementaux et en termes sociaux. Tu vois, t'as beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent la question qui a fabriqué mes fringues, dans quelles conditions, pour quel salaire, etc., etc. Et puis environnementalement parlant, teindre un jean, faire un t-shirt en coton, même bio, peut être hyper impactant de manière très négative évidemment sur l'environnement.
Voilà, et aussi donc, les containers qui arrivent de Chine.
Les containers, le transport, etc., etc. Donc je pense, je sais pas, quand je suis optimiste, j'ai l'impression qu'on est dans une petite période charnière, en fait, où les gens prennent un peu plus la mesure de ce que ça représente, un peu tout ça, et essayent de faire des choix en toute conscience. Ça veut pas dire qu'il y a un bon choix ou un mauvais choix. Moi, je fais pas de prosélytisme. Mais en tout cas, de savoir vraiment à quoi correspondent nos choix. Mon choix à moi, c'est de me dire, j'essaye d'éviter autant que faire se peut la fast fashion. Je suis comme tout le monde, je suis humaine. Et je suis comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, j'ai pas non plus un salaire qui me permet de toujours craquer sur des pièces très belles. Mais tu vois, typiquement, hier, j'étais à l'aéroport de Barcelone. J'étais hyper fière de moi parce que je suis pas rentrée ni dans le Zara, ni dans le Mango. Et c'est une petite victoire personnelle, tu vois. Je me dis, bon, il n'y a pas de petite victoire. Et ça, c'est un vrai message que je veux faire passer. C'est que souvent, on se dit, quand on essaye de changer un mode de consommation, que ce soit en termes de mode ou plus largement d'autres choses, on se dit, mais c'est trop, la tâche est trop ample, en fait, et je vais pas y arriver, et y a trop de choses à faire. Et moi, je pense qu'au contraire, il y a pas de petite victoire, il y a pas de petit geste. Donc, tu vois, ne serait-ce que ne pas rentrer dans un Zara, j'ai pas eu la tentation d'acheter. Je serais rentrée, je me serais dit, ça aurait été beaucoup plus dur de résister, tu vois. Alors que ne pas rentrer, au moins, tu craques pas. Donc, de quoi est composée ma garde-robe? Pour revenir à ta question, tu remarqueras que je suis hyper bavarde.
En basique.
En basique.
Non, mais c'est très très intéressant, je note.
Mais écoute, merci. En basique, je te dis, moi j'ai un ou deux jeans que j'aime beaucoup, et alors sans forcément que ce soit des jeans de bonasse, parce que j'en ai qu'un seul, et il se fait plus, et voilà, donc je le chéris et au-delà de tout. Mais tu vois, j'aime bien, j'ai deux jeans blancs que je trouve hyper bien coupés, que j'aime beaucoup.
Tu peux citer les marques, hein.
Alors c'est des sœurs, qui sont vraiment chouettes. Je les aime bien, bien, bien. Donc voilà, j'en ai racheté un deuxième exactement le même. Tu sais, le toc, moi, quand j'aime quelque chose, que ce soit en matière de nourriture, de mode, etc., j'ai l'impression, je suis limite un peu compulsive, tu vois. Je vais racheter le même en me disant, comme ça, je vais porter celui-là et je sais que j'en ai un en backup.
Je vais l'user.
Je vais l'user jusqu'à la lie, mais au moins, j'en aurai un backup. Donc voilà, j'ai ces trois jeans que j'aime beaucoup. J'en ai un vintage Levi's que j'avais acheté dans une friperie. Alors je déteste les friperies, etc.
Pourquoi ?
Je déteste l'odeur des friperies. Je me fais un peu de peine, hein, mais tu vois, ça me dégoûte un peu, en fait. J'ai du mal à rentrer dans une pièce de seconde main qui vient d'une friperie. Après, t'as friperie et friperie, t'as des pièces qui se lavent très bien. Tu vois, j'ai trouvé deux shorts en jean coupés dans des boyfriends Levi's d'il y a très longtemps. Clairement, je les ai achetés en friperie, je les ai payés 15 balles. Ça vaut pas le coup d'aller l'acheter chez Levi's, que ce soit en termes de prix ou que ce soit en termes de réalité
bien
de production.
Il y a aussi un autre problème avec les friperies, ce sont les prix maintenant qui commencent à flamber.
À s'envoler.
Ouais. C'est une mode.
Ouais.
Et ça devient un peu révoltant. Quoi.
C'est clair. Ça, honnêtement, quand tu vois effectivement ce que ça coûte à la base, bon. En tout cas, voilà. Donc ça fait partie de mes basiques. J'aime bien les chemises d'hommes un peu blanches, toutes simples, hyper chouettes. J'aime beaucoup celles que fait Marie Marot. Les coupes sont classiques ou pas d'ailleurs. Elle a quelques modèles. Voilà, exactement. Et elles sont réalisées, tu vois, dans une matière bien épaisse, qui a un tombé magnifique. Voilà, j'aime beaucoup ce que fait Marie. Pendant un moment, j'aimais beaucoup les blouses en dentelle. Donc, je dois en avoir une dizaine dans mon placard. C'est un peu ridicule, mais
pourquoi c'est ridicule?
Parce que tu sais,
sais, c'est encore une fois, c'est des tocs, quoi. T'en as une que t'adores et puis t'en vois une autre, tu l'achètes. Mmh. Tu dis non, et attends, voilà. J'aime bien aussi, j'aime beaucoup, beaucoup les pantalons taille haute. Donc, mode trotteur en fait des pas mal. Il y a aussi les Garçons qui proposent des pantalons vraiment très chouettes, made in France, dans des très beaux tissus, etc. Ils sont, voilà, c'est mes pantalons fétiches.
Justement, tu parles du made in France. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas certaines marques qui abusent un petit peu
bien sûr.
Parce que c'est du made in France, alors qu'on n'a pas la vraie traçabilité non plus.
Ah non, mais c'est clair.
Double, triple leur prix.
Ah non, mais évidemment, mais c'est un scandale en fait. Le Made in France, ça veut tout dire et ça veut rien dire. C'est comme influenceur, hein. C'est tu mets 18 réalités derrière. C'est-à-dire que quand tu sais que par exemple, si tu veux estampiller par exemple un sac Made in France, tu n'as qu'une petite manip à faire en France. C'est quand même scandaleux, c'est révoltant. Enfin, tu vois, et en plus, tu fais toute ta marge et ton prix, etc.
Alors que c'est fabriqué souvent au Portugal,
bien sûr.
Où les ouvriers sont quand même sous-payés.
Ouais, clairement. Mais il y a un super livre, c'est Majulin's Bay. Je suis désolée si j'écorche la prononciation du nom, qui a écrit un super livre qui s'appelle Une mode éthique est-elle possible ? C'est vraiment un super bouquin qui n'est ni dans le prosélytisme ni dans le jugement, qui pose simplement les faits, la réalité de la mode, tu vois. C'est un super livre que je vous recommande et qui permet aussi de se poser ces questions.
Je le mettrai en lien.
Ouais, super.
À la fin du podcast.
Et désolée, Majulin, si j'ai écorché le nom.
Qu'est-ce que tu penses du mot mode ?
Oh bah, il veut tout dire et rien dire lui aussi. Qu'est-ce que c'est la mode ? Tu vois ?
Bonne question.
Ouais. Bah pour moi, c'est un jeu. En fait, c'est un jeu pour lequel il ne faut pas se prendre trop au sérieux, parce que on n'invente pas le vaccin contre le sida, on n'invente pas la roue. Donc on a le droit de s'amuser, on a le droit de créer, il y a beaucoup de talent dans la mode. Tu vois, il y a beaucoup de créateurs qui font des choses complètement dingues.
Est-ce qu'il n'y en a pas trop de créateurs en ce moment ?
Moi, j'ai tendance à croire qu'il n'y a jamais trop de création. Après, t'as créateur et créateur. C'est-à-dire que t'as aussi comment tu communiques autour de tes créations. Et ce qui est malheureux, c'est de voir certains créateurs qui sont ultra talentueux et qui ne percent pas parce que, soit ils ne savent pas communiquer, ce qui est normal, c'est pas leur métier.
Là, on revient à la problématique d'Instagram.
Exactement.
Justement, ils n'ont pas de visibilité sur Instagram.
Exactement.
Donc,
et ils ont du mal à faire connaître leur travail. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, sont pas forcément moins talentueux, tu vois, mais qui ont un faire-savoir qui est largement supérieur à leur savoir-faire et qui, du coup, vont avoir une place prépondérante. C'est plus ça, tu vois, qui peut parfois un peu rendre dubitatif, on va dire.
Alors, j'imagine qu'on doit souvent te demander des conseils mode. Quel est celui que tu répètes le plus souvent ? À part soyez à l'aise dans vos fringues.
Ouais, soyez à l'aise dans vos fringues, c'est quand même hyper important. Et désacralise la mode. Il faut arrêter de se dire que telle pièce va tout changer, ou au contraire que telle autre sert à rien. Aimez-vous un peu plus. Et ça, je le dis pour moi aussi, hein, parce que comme tout le monde, je suis pétrie de complexes et ça m'énerve en fait. J'aimerais bien avoir moins de complexes et m'aimer un peu plus physiquement. Mais on a tellement été biberonnés à la femme parfaite, avec une silhouette parfaite, surtout en tant que parisienne, tu vois. Tu disais, le mythe existe-t-il encore ? Bien sûr qu'il n'existe plus, mais que dans les faits, t'es toujours renvoyée à une espèce d'icône complètement irréelle.
Là, on nous met une énorme pression.
Ah,
en plus,
clair,
en ce moment, il faut faire du yoga tous les jours,
la
il
méditation,
faut boire des jus
la
méditer,
miracle morning, etc.
Être super chef d'entreprise, avoir plein d'enfants.
Ah ouais, non, mais il faut jongler sur tous les tableaux sans aucun souci, ne jamais se plaindre, afficher un grand sourire et dire que tout est possible. Et voilà. Donc c'est bien de pratiquer la positive attitude. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et très positif, donc je suis la première à garder mes galères pour moi et à plutôt montrer le côté positif des choses. Maintenant, il y a quand même une réalité qui fait qu'effectivement, pour moi, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas tout faire. Et tu vois, la mode, c'est ça aussi. C'est les filles, tu vois, j'accompagne de temps en temps des copines dans des séances shopping et tout. J'aime bien conseiller et tout. Et ça m'amuse parce que, ça m'amuse. Alors, sur le côté complexe, ça me fait de la peine parce qu'il n'y en a pas une seule qui dit pas, non, mais regarde.
Je suis trop grosse.
Je suis trop ci, je suis trop ça. Regarde mes fesses, regarde mes cuisses, regarde mes bras, machin, etc. Donc, t'as envie de dire, les gars, quoi. Enfin, je connais personne, aucune femme dans mon entourage qui s'aime comme elle est. Et c'est quand même super grave, tu vois. Enfin,
vit dans une société d'image.
Oui, bien sûr, mais tu vois, il y a un moment...
C'est triste.
La presse féminine nous a fait tellement de mal, la pub nous a fait tellement de mal. Il faut que nous, en tant qu'influenceurs, blogueurs, journalistes, on reprenne la main là-dessus et que, voilà, on admette qu'enfin, un bourrelet sur un ventre, c'est normal, qu'un mollet pas totalement galbé, c'est pas grave. Enfin, tu vois, il faut qu'on soit sans être dans une espèce de sens négliger totalement, je dis pas ça, mais tu vois, prendre soin de soi, ça veut pas forcément dire faire un 34, quoi. Faut arrêter
Et utiliser les filtres à outrance.
Ouais, et ça marche sur tout, tu vois, moi qui vieillis, par exemple, pendant longtemps, j'ai hésité à continuer, pendant longtemps. Tu vois, il y a un moment, tu te dis, est-ce que je suis légitime encore à prendre la parole sur Instagram, à me montrer, à faire des portraits, etc., à parler face cam ? Parce que j'ai des rides, moi-même, je déteste vieillir, j'aime pas mon image. Bon, voilà, tu vois, on va pas faire une psychothérapie là. Hein.
Tu vas t'allonger sur le canapé et je t'écoute.
C'est parfait. Mais voilà, et pendant un moment, je me suis dit, mais est-ce que je suis pas trop vieille, en fait, pour ce game ? Et en réalité...
Je me pose la question tous les jours aussi, hein. Ouais, je te rassure.
Et ben, tu vois, moi, ma réponse, je pense que non. Parce que déjà, il n'y a pas que des millennials et des gens qui sont sur ces réseaux sociaux, sur nos blogs, sur nos podcasts, première chose. Et deuxième chose, moi, en tant que lectrice, j'ai envie de voir d'autres femmes. Alors, bien sûr, ça ne me gêne pas de voir des jeunes et des filles super bien gaulées, etc. Mmh. Mais ça m'intéresse aussi de voir d'autres personnes, d'autres silhouettes, d'autres profils, d'autres âges, en fait, qui ne sont pas forcément représentés ailleurs.
Et puis, il faut rappeler qu'une femme sur deux en France a plus de 50 ans.
Exactement. Et que la taille moyenne des Françaises est le
42.
42.
C'est bien de le dire.
Ouais, ouais, c'est important.
Parce qu'il y a beaucoup de jeunes créatrices aussi qui ne dépassent jamais le 40.
C'est ça, ouais.
Et ça, c'est...
C'est aberrant. Hyper compliqué. Moi, il y a un créateur que j'aime beaucoup, même si il m'a beaucoup déçu ces dernières années par la qualité, la confection des vêtements, peu importe. Ce créateur ne dépasse pas le 40. Et en fait, c'est juste pas possible, en fait. Tu te dis,
c'est une forme de ségrégation, quelque part.
Ouais, clairement.
Est-ce que l'accessoire est important pour toi ? Alors là, je passe d'un sujet super sérieux à un sujet futile.
Mais pas du tout, l'accessoire est fondamental, donc ce n'est pas du tout futile. Pour moi, l'accessoire est tout sauf accessoire, il est essentiel.
Alors, quel est ton accessoire préféré ?
Mon accessoire préféré, que je ne porte pas aujourd'hui, la blague, mais je m'en départis jamais, c'est une médaille de Monsieur Paris, qui est un œil, en fait, que j'adore. Et là, j'ai fait des bêtises, Nadia, si tu m'écoutes, j'ai voulu changer de chaîne et j'ai bousillé la chaîne, donc il faut que je te ramène ça. C'est pour ça que je la porte pas aujourd'hui. Mais c'est une médaille qui m'accompagne depuis 4 ans maintenant, je dirais. Et voilà, elle fait partie de mon identité à part entière.
Et t'es plutôt sac heat bag ou tote bag ?
Les deux. En fait, j'aime bien les deux. Alors, heat bag, tant qu'ils sont pas trop vus. Parce que foutre un prix indécent dans un sac, c'est déjà un sujet. Mais alors, si c'est pour le voir à tous les coins de rue, moi, ça m'intéresse pas, en fait. Tote bag, je trouve que c'est hyper pratique, cool. Et tu vois, l'été, je porte que ça, par exemple. Parce que tu fourres tout là-dedans et hop, roule ma poule.
Mini-jupe ou jupe midi ?
Jupe midi.
Plat ou talon ?
Talon.
Quel est ton dernier achat ?
Ah, bonne question. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Ah si, une jupe midi, justement, rayée Cézanne.
Quel est ton prochain achat ?
Je sais pas encore.
Quelle est la fringue de tes rêves ?
Alors, tu vois, je t'aurais répondu un trench Burberry, mais ça y est, j'ai acquis la fringue de mes rêves.
J'ai vu que tu l'avais trouvé.
Ouais, et en seconde main, justement, tu vois. Je l'ai payé 200 euros. Il est sublime, c'est une coupe homme des années 70, je le surkiffe, c'est mon grand plaisir. Donc là, voilà. Ça,
t'as plus de rêve.
Si, t'as toujours un rêve, tu vois. C'est ça d'ailleurs contre quoi j'essaye de rationaliser, de lutter en tout cas. C'est que tu vois, il y a un moment, tu te retrouves toujours dans une perspective d'achat. Et l'achat que tu fais ne comble plus tes envies. Et du coup, j'essaye vraiment de profiter de mes achats et de me dire, voilà, profite de ce que tu viens d'acquérir. Tu t'es fait plaisir, quel que soit l'achat, le prix, ce que c'est. Essaye de le kiffer, en fait, cet achat et d'en profiter avant d'en vouloir un autre. Oh, on dirait que je suis philosophe. En vrai, je passe ma vie à faire des achats compulsifs. Hein. Je donne pas de leçons.
Ah, alors...
Non, je fais hyper gaffe parce que déjà quand tu regardes, je fais jamais mes comptes. Je suis quelqu'un de très laxiste là-dessus et c'est un peu compliqué. Hein, mon mec me le reproche assez souvent.
Bon, il est là, il peut les faire.
Ouais, ouais. Et puis si tu veux, on a le compte courant pour les dépenses de couple. Et puis après, j'estime que je suis une femme indépendante, je gagne ma vie, je dépense l'argent comme je l'entends. En revanche,
et bam.
En revanche, c'est vrai que quand j'ai beaucoup de fringues parce qu'on m'en envoie, parce que j'en achète, parce que voilà. Et quand tu vois cette espèce de masse de placards qui dégueule de partout, etc., j'avoue qu'il y a un moment où tu te dis c'est plus possible en fait. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens en fait. C'est n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que j'évite les Zara et Co. parce que tu sais que tu vas être dans une espèce de satisfaction très éphémère où tu vois, un jour t'as un petit coup de mou, tac, tu t'achètes une petite chemise ou une petite robe sympa. Et,
ça peut faire du bien aussi parfois.
Oui, mais faut pas tout diaboliser, tu vois, c'est pas grave, ça peut faire du bien. Mais. Je veux pas que ça devienne systématique, en fait.
Ton dressing est parfaitement rangé ou...
Tu parles, c'est un bordel sans nom, quoi. C'est l'enfer, tu verrais ma pile de t-shirts. Normalement, j'ai les t-shirts à manches courtes, les t-shirts à manches longues et les blouses. Et là, c'est un espèce de gloubi-boulga dégueulasse. Je t'enverrai une photo tout à l'heure, si tu veux.
Ah, je veux bien.
Ah, l'enfer. Non, mais c'est l'enfer. En fait, tu sais, j'ai des placards en hauteur. Mm-hmm. Et moi, j'adore hein, toutes les émissions où on te montre tous les placards bien rangés, les Marie Kondo qui disent « Il faut rouler les t-shirts, machin. » Mais j'adorerais, mais moi, je peux pas. Déjà, il faut que je prenne un tabouret pour accéder à mon étagère, si tu veux. Donc, je suis à Paris, comme toutes les Parisiennes ou presque, j'ai pas le luxe de m'offrir un dressing digne de ce nom. Donc forcément, non, je ne roule pas mes t-shirts, je les mets en boule. Ils sont en pile pendant une semaine et après ils sont en boule.
Et quand, j'imagine que quand t'en tires un,
tout vient, bien sûr. C'est pour ça qu'ils sont en boule à la fin. C'est que ta pile, elle est nickel. Évidemment, tu veux le troisième ou le quatrième ou tu sais plus le t-shirt noir que t'as vu, nanana. Et puis tu tires et tout se fout le camp. Voilà, donc c'est l'enfer.
Bienvenue dans la réalité.
On a pas des faciles.
Acheteuse en ligne ou en boutique?
Plutôt en ligne.
J'imagine que tu le disais, hein, tu reçois beaucoup de vêtements. Qu'est-ce que tu fais de ceux que tu ne portes plus?
Je les vends.
Je vends tous mes cadeaux.
Je vends tous mes cadeaux.
Ça, c'est un autre sujet.
C'est
encore.
Clair. Ceci étant évidemment une blague hein, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas compris.
Merci de le préciser.
Oui, je préfère. Qu'est-ce que j'en fais? Alors déjà, j'en reçois beaucoup, mais j'ai tendance à valider avant l'envoi, tu vois, parce que si c'est... en général, j'essaye de mettre en avant ce qu'on m'envoie, puisque souvent, c'est des créateurs qui ont besoin de visibilité, etc. Donc, ce serait pas très juste d'accepter quelque chose que tu aurais pas l'opportunité ou l'envie de mettre en avant. Donc, j'essaye de valider un maximum avant d'accepter. Et ensuite, souvent, comme c'est des créateurs, c'est des belles pièces. Donc, tu vois, je les garde. Et si j'ai pas envie de les garder, souvent, je les donne beaucoup, ce que j'aime bien donner. Et puis après, oui, j'organise des vide dressing avec certaines pièces qu'on m'a offertes, mais aussi beaucoup, beaucoup d'achats.
Donc, c'est ça.
Ça s'équilibre un peu, si tu veux. C'est que moi, je vois ça comme une espèce de cercle vertueux où, tu vois, je suis obligée d'investir un certain nombre d'argent par exemple créer des looks, mettre en avant des looks, etc. Mais à la fois, ce que je reçois gratuitement et que parfois je peux revendre me permet de réamorcer la pompe dans l'autre sens et de pouvoir réinvestir dans les fringues.
C'est bien de le dire parce que je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Tu prends régulièrement des photographes.
Ouais. Je paye des photographes, en fait.
Que tu payes, bien évidemment.
Oui, bien sûr. Ça, c'est tout le sujet. Là, je viens de m'engueuler avec une marque que j'aime beaucoup, en plus, donc ça me contrarie un peu. Mais on se l'est dit, hein, on est des femmes, toi et moi, franches et cash et franches du collier. Donc, ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Donc là, typiquement, j'ai une marque qui m'a offert une robe que j'ai choisie. Et donc l'idée c'est que j'ai payé le photographe une session de 2 heures pour faire quelques looks, pour shooter quelques looks, et donc cette robe en faisait partie. Et j'ai déjà été relancée 3 fois par mail pour savoir quand est-ce que j'allais mettre en ligne. Donc j'ai déjà expliqué que moi je mets un look en ligne par semaine. Donc tu vois, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'augmente la cadence. Mais bon, tu vois, à un moment, si j'augmente la cadence, je paye plus le photographe. Je suis plus dans une logique de production. C'est faire des looks, tu vois, ça prend du temps, etc. Donc je veux pas que ça devienne une usine et je veux pas me sentir obligée de faire quelque chose qui me ressemblerait pas. Ou tu vois, je veux rester honnête dans mes rapports avec mes lecteurs et dans ce que j'ai envie de faire. Et cette honnêteté, elle passe avant tout avec comment je ressens les choses, tu vois. Donc voilà, Et donc, en gros, la marque m'a déjà relancé 3 fois par mail. Donc, j'ai dit, bah oui, j'ai pas encore shooté, mais je suis dessus. De toute façon, la pièce est très estivale. Donc, globalement,
vu la météo,
ça sert à rien que je la mette maintenant. De toute façon, ça n'aurait pas de logique. Donc, voilà. Finalement, je l'ai intégré au shooting, au dernier shooting. Donc, de moi-même, j'ai renvoyé un mail à la marque pour dire, voilà, une petite preview du shoot du jour. Et je vous tiens au courant dès que c'est en ligne. Ça devrait être fait d'ici les quelques semaines. Et ben là, donc en pleine vacances, ça aussi, on peut en parler, les vacances des freelances. Hein, tu peux pas déconnecter 4 jours sans qu'on te harcèle. C'est quand même hallucinant.
Enfin, tu n'as pas le droit de partir en vacances quand tu es freelance.
Non, mais c'est hallucinant, quoi.
Tu n'as pas le droit.
Je trouve ça dingue, quoi. Enfin, personne, nul n'est irremplaçable et surtout pas nous. Enfin, je veux dire, on crée du loisir. Alors bien sûr que c'est du loisir de qualité et on essaye en tout cas. Mais je sais pas, ça me rend très dubitative et vraiment limite en colère, tu vois. Mais bon, c'est encore un autre sujet.
Moi aussi.
Écoute. Donc voilà, mais peu importe, du coup, j'ai cette même marque en fait qui me relance sur Instagram en me disant « Coucou, on n'a toujours pas vu passer la robe sur tes réseaux, peux-tu nous dire quand est-ce que tu la mettras en ligne ?» Alors déjà, je réponds « Bah bonjour, je suis en vacances. » Hein, ce qui est pas très dur à voir vu que je l'ai mis en
story.
Suivre.
On a vu que t'étais à Lanzarote.
Tu regardes même pas mes stories, tu regardes mes photos sur le feed, tu vois que voilà, bon bref. Donc je dis bah bonjour, je suis en vacances, j'ai déjà envoyé un mail à une personne de votre équipe avec les infos. Donc voilà. Ah bon, mais sur quel mail l'as-tu envoyé? Ok, je m'énerve pas, je fais un screenshot, je balance. Ah oui, d'accord. Et donc ça sera quand? Et là, mais j'ai dit, bah, je suis désolée, je pense qu'on va arrêter de travailler ensemble, en fait. Enfin, déjà, travailler, non, on va arrêter d'avoir ce partenariat, parce que moi, vous me payez pas, en fait, pour mettre ce look en avant, quand bien même.
En plus,
vous
c'est ça qu'il fallait préciser, alors non, que t'as payé le photographe.
J'ai payé le photographe, donc en gros, limite, je paye pour donner de la visibilité à cette marque.
Non, c'est pas limite, c'est tu
oui,
as
je
payé.
Paye pour donner de la visibilité à cette marque. Et je comprends, et c'est ce que je leur ai écrit. Je leur ai dit, je comprends que vous ayez besoin d'une visibilité, d'un calendrier, etc. Je dis, moi, je peux pas vous dire mieux que ça sera en ligne d'ici à fin mai, en fait. Et par ailleurs, j'ai d'autres contenus à mettre en avant en priorité, etc., etc. Et en fait, les relations sont crispées tout de suite parce que les gars pensent que c'est un dû, en fait. On t'a filé une fringue, donc t'es corvéable à merci, tu fermes ta gueule et tu remercies les gens, tu vois. Alors pardon, je suis un peu vulgaire, hein, mais il y a un moment, bien sûr que c'est génial de recevoir une fringue et c'est super cool. Par contre, le travail qui en découle derrière et l'argent que j'ai payé, effectivement, pour mettre en avant cette tenue, ça, je le dis pas forcément parce que bah, c'est mon petit business à moi,
mais
ça regarde personne d'autre.
Mais c'est important de le dire.
Mais voilà, c'est une réalité. Et il y a quand même certaines marques, t'as envie de leur dire, non mais les gars, enfin, vous vous rendez compte un peu de la manière dont, tu vois, c'est... Tu m'as offert une robe et c'est super et merci beaucoup. J'ai accepté de la recevoir parce que j'ai envie de soutenir cette marque que j'aime bien par ailleurs, que je trouve chouette et je ferai mon possible. Pour, tu vois, mais il y a un moment, en fait, ça t'écœure, t'as envie de renvoyer la robe direct sans la mettre en avant parce que tu dis sans déconner quoi.
Enfin, oui, c'est ce que j'aurais fait.
Ouais, mais je te cache pas que le problème c'est que c'est une amie qui a créé cette marque donc c'est un peu délicat. Tu vois, j'ai pas envie de foutre un bordel sans nom dans ce truc là. Donc voilà, mais c'est en vrai, c'est pas grave, tu vois, la Terre va pas s'arrêter de tourner, et c'est pour ça aussi qu'il faut prendre du recul.
Oui, mais c'est une réalité.
Mais c'est une réalité, et cette réalité, elle est parfois bien, bien gonflante, quoi. Et la fille, c'est ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, mais attends, mais meuf, j'ai déjà répondu à une fille de ton équipe, s'il n'y a pas de communication dans ta team, tu vois, déjà, c'est pas mon problème, en fait, c'est pas à moi de pallier ça, en fait, déjà, premièrement. Deuxièmement, je te réponds, je suis sympa, je te réponds, je suis en vacances, en fait, et je te le dis poliment, alors que je pourrais te dire, en fait, merci de ne pas me...
Ou mettre un message d'absence,
voilà,
tout simplement.
Ouais, mais sur Instagram, c'est compliqué.
Oui.
Mais voilà, tu vois, bon, et la fille, toi, n'a rien à foutre, en fait, et te redemande des comptes derrière et tout, et tu dis non, mais enfin, non.
En fait, Instagram encourage beaucoup le travail gratuit.
Ouais.
Tu crois que ça va durer longtemps?
Je pense pas, parce que tu vois, moi, à un moment, j'essayais de bosser, mon modèle était fait de telle manière que je pouvais pas rémunérer des photographes. Donc, j'ai essayé de travailler gratuitement avec des photographes. Déjà, j'aimais pas ça, parce que pour moi, tout travail mérite
salaire.
Et donc, j'ai pas envie de, tu vois, d'abuser l'expertise ou du travail de quelqu'un. Maintenant, bah, parfois, t'as pas le choix, t'es obligé voilà. Donc, tu renvoies l'ascenseur, t'essayes de donner des budgets derrière, tu vois, de faire en sorte que, ce photographe ait un contact privilégié pour bosser avec telle marque. Voilà, t'essayes de trouver un équilibre malgré tout. Voilà. Mais tu peux pas faire un travail pérenne comme ça, parce que de toute façon, tu peux pas exiger, tu peux pas être exigeant quand tu demandes ou quand tu produis un travail gratuit. Et tu vois, typiquement, ce que je te dis, pour moi qui ai embauché gratuitement un photographe en échange de contacts et de business que j'ai pu lui apporter par ailleurs, et puis aussi parce que c'était devenu une amie et que c'est une fille géniale et qu'on a un peu la même vision, alors elle beaucoup plus loin que moi, mais de la mode éthique et responsable, donc je pense qu'elle aussi, elle avait à cœur de mettre en avant des blogueurs ou des influenceurs qui ont cette image-là. Peu importe, en tout cas, si tu veux, on aurait pu continuer sur ce schéma-là pendant longtemps, il se trouve qu'elle a choisi de déménager. Et en gros, moi, j'ai fait le choix aussi, du coup, de professionnaliser ça et de rémunérer un photographe. Parce que bah, quand tu rémunères quelqu'un, t'as le droit de lui dire bah, « voilà mes échéances. »
C'est pas bien.
Voilà, pas ça, bien, j'aime pas, ça. Je voudrais qu'on refasse. Mon brief, c'est ça, etc. Quand tu travailles gratuitement avec quelqu'un, tu peux pas être exigeant, c'est normal. Mm-hmm. Enfin, tu vois, il y a un moment, tu peux pas dire « je veux refaire 18 fois le truc parce que j'ai payé, quoi. » Bah non, t'as pas payé. Et la marque, c'est pareil. Tu vois, la marque qui m'a filé cette robe-là, j'ai envie de te dire, c'est pas parce qu'elle m'a pas payé que je vais gérer en dilettante, pas du tout. Mmh. Au contraire, j'ai déjà fait le shooting, on a pris le temps de faire quelque chose de chouette et j'avais très envie de la mettre en avant. Par contre, me harceler littéralement pendant mes vacances pour savoir quand est-ce que je vais publier, bah non, en fait, c'est pas possible, quoi.
C'est pas très élégant.
Non, ça, l'élégance, ma pauvre.
Bah justement.
Ma pauvre amie.
Alors,
l'élégance.
Bonne transition. Quelle est ta définition de l'élégance?
Oh, bah l'élégance, hein. Comment te dire? L'élégance, c'est un tout. L'élégance, c'est l'élégance des mots, l'élégance d'une posture, l'élégance d'une tenue. L'élégance, c'est tout et c'est rien à la fois. Ça va être juste un regard que tu vas poser sur une personne. Ça va être un geste qui va être cantonné à telle ou telle chose. Ça va être la manière dont tu t'adresses à un serveur, à une personne dans une boutique, à la manière où tu t'adresses à des gens en message privé sur Instagram. C'est tout ça, l'élégance, en fait. C'est une somme de choses qui font de toi quelqu'un d'élégant ou pas. Et c'est très, très rare, l'élégance, aujourd'hui. D'ailleurs, je donne pas de leçons, hein. Je sais pas si je suis élégante, moi. Tu vois, typiquement, quand j'ai pété un plomb et que j'ai envoyé chier la marque en message privé, c'était clairement pas élégant.
Tu te remets en question.
Ah oui, clairement, oui, ça, il n'y a pas de problème.
Je vais te poser quelques questions, tu n'as le droit qu'à une seule réponse. Attention, ça va être difficile pour toi. Si tu étais une couleur.
Vert.
Quel type de vert?
Un vert prairie, bien profond, tu vois.
Si tu étais une forme de pantalon.
Le pantalon droit.
Tout ça.
Taille haute, ouais, taille haute quand même.
Si tu étais une chaussure.
Oh, c'est dur tes questions.
Bah ouais, c'est dur mes questions.
Une chaussure compliquée. Une Converse quand même.
Si tu étais une matière.
La soie. La fille qui pète dans la soie, tu sais. Mais non, mais c'est doux, la soie, c'est chaud, c'est chouette.
Si tu étais un pull.
Un petit pull en cachemire. Oh là là, décidément, la simplicité de la fille.
Oui, c'était très simple.
Soie, cachemire, voilà, c'est tout moi, ça.
Si tu étais un parfum.
La fleur d'oranger.
Si tu étais une ville.
Londres.
Si tu étais un sous-vêtement.
Un soutien-gorge.
Comment?
Sans armature, sans rien. Je veux pas le soutien-gorge triangle. Qui contraint. Ouais, triangle.
Le soutien-gorge qui contraint.
Non, je veux pas ça. Tu sais, celui qui galbe, qui remonte, qui serre, qui entrave, en fait, ta liberté de mouvement. Je veux juste le soutien-gorge mignon, sympa, la petite pièce que
qui
tu
fait son boulot, quoi.
Ouais, qui fait le job un peu plus, tu vois, genre, la petite dentelle qui dépasse d'un t-shirt, un truc un peu sympa, tu vois.
Si tu étais une créatrice ou un créateur.
Ha! Qu'est-ce que c'est dur. Créateur de bijoux.
Si tu étais une héroïne. Et là, Delphine me regarde avec des grands yeux en disant « mince, mince, mince ».
Non, 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 pas du tout, pas du tout. Il y en a plein, en fait, que j'ai envie de citer. Donc, une seule, c'est ça qui est compliqué, quoi.
Bon,
une héroïne...
Trois.
Deux. Non. Thelma.
De Thelma
et Louise.
Si tu étais un homme.
Je serais capitaine. Et là, ça nous date plus sûrement que du Carbone 14. Si j'étais un homme, bonne question. Je pense que je serais créateur.
Créateur.
De mode.
Merci infiniment, Delphine.
Merci
tu m'as
à
bien
toi.
Fait rire, en tout cas.
Écoute, tant mieux.
Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, American Vintage ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.
Vous avez raté un épisode de Chiffon, voici les extraits des trois derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Laurie Tillman.
Il
Il y a tellement aujourd'hui de manières de consommer la mode autrement et en étant en plus solidaire.
Jessica Troisfontaines.
Anja, je pense que tu connais, qui fait des trucs super, maison standard pour des basiques. Il y a une marque qui s'appelle Monographie, c'est magnifique. Moi, je vais plus jouer autour de ça.
Gaël Ficou.
Tu regardes la Fashion Week?
Ouais, je regarde, bien sûr. J'aime bien, je regarde beaucoup la mode, sincèrement.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.